Je suis Adrien Garcia, entrepreneur, designer et cofondateur de la marque de vêtements Réunis. Et vous écoutez The Bold Way. L'avenir appartient à ceux qui remettent en cause l'ordre établi. Mais comment réinventer les règles, créer des projets iconiques et des œuvres qui marqueront l'histoire? The Bold Way est le podcast qui rentre dans la tête de ceux qui excellent dans leur domaine. Mode, divertissement, food, design, art ou business. Leur point commun? Le travail, l'audace, l'innovation et une attention toute particulière à la créativité et à l'esthétique. Ma mission est de décortiquer leur méthode et leur état d'esprit à travers des interviews longues et sans filtre, pour vous donner les clés de leur succès et vous inspirer à créer votre propre chemin. The Bold Way est plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement qui encourage chacun à trouver sa propre voie, à tracer son propre chemin et à innover dans son domaine. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Bonne écoute.
Avant de commencer l'épisode, je voulais vous dire un truc de ouf. 75% d'entre vous ne sont pas encore abonnés au podcast sur les plateformes d'écoute telles que Apple Podcast ou Spotify. Si vous appréciez ce podcast, je vous serai extrêmement reconnaissant de vous abonner via votre application d'écoute favorite. Votre abonnement aide véritablement le podcast à se développer. Et plus vous êtes nombreux, meilleurs seront les invités. Un grand merci d'avance.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur The Bold Way. Je suis avec Martine Parr. Bonjour Martine, comment vas-tu? Bonjour tout le monde, je vais très bien. Pour situer le contexte, où sommes-nous aujourd'hui, Martine? Alors nous sommes dans la bibliothèque de la Fondation Martine Parr, située à Bristol. Elle est ouverte depuis 2017 et son objectif principal est de soutenir, encourager et de rassembler d'autres photographes documentaires britanniques et même irlandais. C'est un grand projet, nous avons un très bon programme de conférences, de séminaires, nous avons beaucoup de membres, donc oui, ça se passe très bien. Alors, pourquoi s'être installé à Bristol? Alors, je vivais à Bristol et j'ai envisagé de le faire à Londres parce que j'avais un bureau là-bas, mais j'ai pensé que Bristol serait mieux. L'immobilier y est moins cher, beaucoup de mes collaborateurs ont donc déménagé à Bristol, ils ont pu acheter des maisons, et c'est une ville très créative. Tous les Français qui vivent à Paris devraient donc, en tout cas en France, venir visiter la fondation et voir les expos. Des gens comme Arben sont ici, les grands animateurs, et vous savez, Channel 4 ont des bureaux ici. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de galeries. C'est une ville très funky et créative. Alors, qui es-tu, Martin? Qu'est-ce que tu fais? Qui je suis? Ben, je suis photographe. Donc oui, si tu as un dîner, tu te présentes en tant que photographe. Exactement. Je fais d'autres choses aussi, comme créer, monter et faire des films, mais mon objectif principal, c'est d'être photographe. Qu'est-ce que tu représentes? Alors, je suis photographe documentaire, je suppose donc que je veux montrer des images qui illustrent ma relation avec le monde au cours de ces quelques 50 dernières années que j'ai passées à photographier. Et comment s'est déroulée ton enfance? Oui, j'ai grandi à Surrey, une banlieue de Londres. C'était un endroit très ennuyeux. J'ai été très heureux de partir et d'aller à l'université de Manchester à l'âge de 18 ans. Et puis bien sûr, je ne suis jamais retourné vivre à Surrey. Alors oui, c'était un peu ennuyeux, mais parce que c'était si ennuyeux, tout le reste paraissait très intéressant. Est-ce que ça t'a façonné d'une certaine façon? Je sais pas vraiment, je veux dire je suis qui je suis. Ces questions sont un peu trop difficiles pour que j'y réponde, il faut être psychanalyste pour ça. Parfait, alors on va jouer à un petit jeu, j'ai mis des mots sur des cartes, j'aimerais que tu en choisisses quelques-unes et que tu élabores chaque concept. Je prends celle-là. Oui, il y en a pas mal. Celle-ci dit point de bascule. Je vois pas très bien ce que tu entends par là. Au cours de ta carrière, quels ont été selon toi les points de bascule, les moments clés? Alors, on peut dire que lorsque j'ai commencé à faire de la couleur dans les années 80, ça a été un point de bascule, c'était un grand moment. Est-ce qu'il y en a d'autres selon toi? Alors, je n'envisage pas ma carrière de cette manière, je continue simplement à prendre des photos. J'accumule les photos, pas seulement en Grande-Bretagne, mais partout. Je n'adhère pas à cette analyse intellectuelle que tu projettes sur moi. Donc tu n'envisages pas ta vie à travers ta carrière. Tu n'essayes pas d'exceller dans cette carrière de photographe. Pas vraiment, non, c'est arrivé comme ça. Je voulais être photographe, j'ai étudié la photographie, et après avoir quitté l'école, j'ai enseigné, puis j'ai rejoint l'agence Magnum, et j'ai pu faire davantage de travail commercial. Je n'y aurais pas cru si on m'avait dit que j'allais faire des shooting mode, par exemple. Si tu m'avais dit quand j'étais à l'université, j'aurais dit non, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Mais les choses ont changé. Car bien sûr, j'ai 12 personnes ici que je dois payer chaque mois, je dois donc continuer à travailler, à vendre des tirages et à travailler pour Magnum. Donc oui, je continue à faire des tirages pour la mode. Magnum était un point de bascule, non ? Dans un sens, oui, je n'aime juste pas le mot « point de bascule ». Alors c'était un moment clé dans ma vie. Et il y a eu beaucoup de résistance contre mon affiliation avec Magnum. Mais à la fin, je les ai rejoints, je suis devenu président et le plus grand contributeur. Donc j'espère que les gens qui ne désiraient pas que je rejoigne comprennent que ma contribution a été très importante.
Fantastique.
Très bien, alors on en choisit une autre, n'importe laquelle. Celle-là m'inquiète. Critique. Oui, comment tu reçois les critiques et que conseillerais-tu à un jeune photographe ou à n'importe qui d'autre à propos des critiques? Il faut s'en soucier, il faut ignorer? Alors, le Last Resort a été beaucoup critiqué parce que c'était en couleur et que les gens n'étaient pas habitués à ces grands formats. Il y a beaucoup de déchets à Brighton, donc ça m'a valu quelques critiques aussi. Et il y a 2 ans, j'ai été critiqué à cause de l'édition d'un livre de Gian Buturini. Donc, j'en ai eu pas mal. Ce que je conseillerais à tout le monde, c'est de ne pas trop y penser, surtout à l'ère des réseaux sociaux qui sont très invasifs et négatifs. Si on y prête trop attention, on ne ferait jamais rien. Est-ce que tu vas sur les réseaux sociaux? Je vais sur Instagram, mais c'est tout. Pas de Twitter. Est-ce que tu gères tes comptes toi-même? Non, c'est Nathan, notre expert en réseaux sociaux, qui s'en charge.
Fantastique.
On en prend une autre? Oh mon Dieu, on ne va pas pouvoir toutes les faire. Non, pas celle-là, suivante. Celle-là peut-être? Nope, on déchire. Donc média, la photographie c'est ton média principal. Est-ce que tu utilises d'autres formes d'expression, la peinture par exemple? Pas vraiment, non. Je suis passé de l'analogue au digital en 2008 et une fois qu'on change, on ne revient pas en arrière. Surtout pour les photos de nuit où on peut équilibrer le flash et la lumière ambiante beaucoup plus facilement qu'avant. J'ai fait quelques films, mais plus maintenant parce que ça prend trop de temps. Mais j'ai beaucoup aimé le faire pour la BBC, on a fait 26 films d'une minute, ce qui était très plaisant à faire.
We made 26 films, which were like a minute long, but they were good fun to do.
And I wasn't behind. Mais je n'opérais pas la caméra. J'avais un très bon chef-op et j'étais dans la position de réalisateur, ce qui était parfait.
Okay.
Et je prenais des photos en même temps.
Yeah. And do you write?
Est-ce que tu écris ou dessines? J'écris occasionnellement. Si tu vas sur mon site, tu peux voir quelques blogs que j'ai écrits, mais c'est à peu près tout. Alors, je vais te prendre une gorgée d'eau. Tu peux boire du café à la place. Donc, on a déjà pris celle-là. Alors, enthousiasme. Alors oui, je suis encore enthousiaste quand je trouve un bon sujet. Je viens de revenir d'Islande, par exemple, c'était très intéressant. C'est une destination très touristique et j'ai un projet en cours qui s'appelle Small World. On vient de publier une nouvelle édition. Donc oui, quand je vois des trucs comme les geysers, le cercle d'or avec tous ces gens autour, c'est très excitant, et c'est mon travail, maintenant, d'essayer de transmettre cet enthousiasme par l'image, ce qui n'est pas chose aisée. Donc on essaye de faire de notre mieux et d'accomplir cela, mais la plupart du temps, c'est raté. Mais je suis toujours très enthousiasmé par la photographie et ce qu'elle peut faire. C'est un média très bizarre parce que c'est si dur et si facile à la fois. Parce que tout le monde peut être photographe. Et comme tu le sais, il y a des millions de gens sur Instagram qui prennent des photos constamment et les diffusent sur les réseaux. Je suppose que c'est ce public qui veut voir ce que font les autres photographes, comme moi. C'est donc un très bon moyen de capter un public. On a 730 000 followers, je suppose donc qu'au moins la moitié d'entre eux voient certains des posts que nous publions sur nos différents travaux. Chaque semaine, nous publions une série de photos différentes. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la photographie ? Obtenir une bonne photo ? Il n'y a pas de raccourci pour obtenir une bonne image. Non, il faut s'entraîner et le faire tout le temps. Une fois qu'on s'est engagé sur un sujet, il est possible d'obtenir une bonne photo, mais c'est assez difficile. Mais par exemple, quand tu fais une séance de photos de mode, comment tu crées la magie ? Souvent, tu as très peu de temps, peut-être une journée, ce qui est très court, et il faut absolument avoir un résultat à la fin. Comment tu procèdes ? Je prends juste les photos. J'essaie d'utiliser les modèles, les habits et d'incorporer le tout. On peut appeler ça de la magie si tu veux. Alors je viens juste de finir un livre avec mes photos de mode qui sortira en avril à Paris et à Londres. Mais voilà. Quelle est la différence entre une photo documentaire et une photo de mode ? Alors souvent, les deux se chevauchent. Je veux dire, l'une des tendances actuelles est que les gens de la mode demandent à des gens comme moi, qui font de la photographie documentaire, de faire de la mode. Cela donne un peu plus de vie. Les photographes de mode sont un peu limités, ils utilisent trop le studio. Et moi, j'adore photographier en extérieur. Et c'est toute une génération aujourd'hui, Jack Davison, Harley Weir, Jürgen Teller, qui font leurs propres travaux et aussi de la mode. La mode, c'est pour gagner sa vie ? Oui, bien sûr, oui. Est-ce que tu aimes les projets de mode ? Oui, j'aime ça, j'aime le défi. C'est un problème que nous devons résoudre avec la photographie. Comment obtenir une photo intéressante avec un modèle dans une situation qu'on a généralement choisie ? Et en ce sens, c'est très gratifiant. Comment tu travailles avec les marques ? Est-ce qu'elles te briefent ? Ou bien tu es complètement libre ? Ils t'embauchent pour faire une photo au Martin Parr en quelque sorte ? Oui, c'est ça. J'ai un agent, et l'agence Magnum également, qui me trouve du travail dans le monde de la mode, et c'est à peu près ça, c'est très simple. Rien de bien intellectuel. Si tu cherches des réponses de ce genre, malheureusement, tu t'adresses à la mauvaise personne, j'en ai bien peur. Combien il en reste ? Il en reste pas mal. IA, est-ce que tu l'utilises ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors bien évidemment, je pense qu'il y a un réel bénéfice pour la médecine, mais je ne me sens pas menacé par l'IA. Parce qu'il est impossible de reproduire les particularités d'un photographe intéressant avec l'IA pour l'instant. Peut-être dans les prochaines années, mais pour le moment, on a besoin de la vision individuelle de chaque photographe et l'IA ne fait que supplémenter ça d'une façon très naïve. Est-ce que tu as essayé ? Bien sûr que non, pourquoi j'irais m'embêter avec ça ? Quel est ton plus grand échec ? Je n'ai pas vraiment de gros échecs, à part le fait que je rate des centaines de photos par an, parce que je ne suis pas au bon endroit au bon moment. Donc on peut dire que ce sont ça mes échecs, parce que souvent on voit quelque chose trop tard et il fallait être là avant que ça se produise. Et si on arrive après la chose intéressante, bah c'est pas génial. Donc pas de gros échecs. Non, j'ai bien peur que non. Est-ce que tu considères que tes photos sont simples ou compliquées ? Très très simple, très intuitive. J'essaie de capturer ma relation au monde par le biais d'une photographie, ce qui est très difficile à faire, mais la formule est très simple en elle-même. Combien ça coûte de travailler avec Martin Parr ? Alors ça va de gratuit à très cher, donc je peux pas vraiment te dire parce que chaque projet est différent. Qu'est-ce que tu fais gratis par exemple ? Beaucoup de requêtes pour de l'humanitaire, on leur fournit aussi souvent les imprimés.
Fantastique. What is the photographer?
Quel est le rôle du photographe? On ne peut pas vraiment dire qu'il y a un rôle de photographe. Mon rôle à moi, c'est de prendre des photos qui parlent, comme je l'ai déjà dit, de ma relation au monde à travers la photographie, et en particulier au Royaume-Uni. J'ai une relation amour-haine avec le Royaume-Uni, et je peux donc exprimer l'ambiguïté de cette relation par le biais de la photo. C'est quoi le problème avec cette carte? Je ne pense pas que ça te plaira. ADN. Effectivement, oui. Oui, tu l'aimes pas? Non, c'est vraiment idiot, n'est-ce pas? Alors, comment tu progresses? Je relève souvent des défis, comme l'utilisation d'un nouvel appareil photo ou d'un nouveau téléobjectif. Par exemple, j'ai écrit un livre intitulé « Beast Therapy ». Bien que je puisse toujours m'appuyer sur les techniques et le langage que j'ai développé en tant que photographe, je suis toujours à l'affût d'idées nouvelles et différentes. Et lorsque les gens me demandent de faire des choses différentes, ça m'arrive d'accepter. Donc je suppose que c'est du progrès quelque part. Est-ce que c'est ça le moyen pour se réinventer? Alors, je ne me suis pas vraiment réinventé. Alors, on pourrait dire que mon passage du noir et blanc à la couleur est une réinvention, mais je ne le vois pas comme ça. C'est un progrès continu. Quel est le futur de la photographie? Elle se perpétuera parce que c'est un média formidable. Tout le monde est photographe. On est dans une démocratie de la photographie. J'aime le fait que tu peux obtenir un grand nombre de followers sur un site comme Instagram. Je pense que la photographie a un très bel avenir devant elle parce que c'est un très bon média et que beaucoup de gens peuvent le faire. Et ça donne envie aux gens de voir ce que d'autres photographes ont fait, comme moi. Mais est-ce que tu penses que c'est toujours une opportunité de carrière et qu'on pourra encore gagner sa vie avec la photo dans les prochaines décennies? Bien sûr que tu peux, mais il faut vraiment être obsédé. La plupart des gens qui abandonnent la photo sont paresseux. Le problème, c'est que c'est facile de prendre une photo et penser qu'elle est bien, et souvent elle ne l'est pas. Tu sais, lorsque j'évalue le travail des gens, ils ont généralement une vision bien trop optimiste de la qualité de leur travail. Et mon travail, je suppose, c'est d'essayer de les ramener à la réalité et d'essayer de voir avec eux comment ils peuvent progresser et prendre une idée en particulier et la développer. Quel conseil tu donnes à un jeune photographe pour qu'il progresse? C'est la même chose, il faut trouver le bon sujet, s'y intéresser, et il faut s'enthousiasmer pour lui, et ensuite tu obtiendras peut-être des photos intéressantes. Donc trouver son sujet et être obsédé. Oui, et la plupart des gens ne le sont pas. Quel est ton sujet principal? Les gens et les loisirs du monde occidental. Voilà, c'est un de mes sujets. Le seul? Le principal, c'est celui qui englobe tout.
Intéressant.
Comment s'est passée la collaboration avec Jacquemus, Gucci et Toilet Paper? Alors tous ces gens étaient très intéressants et intelligents. Simon de chez Jacquemus est très intelligent et c'était super de l'aider à tourner son dernier projet à Versailles. J'ai travaillé un moment chez Gucci, mais j'étais un peu à utilisation unique pour eux. Donc il faut toujours chercher de nouveaux projets avec de nouvelles marques. J'adore Rizzi de chez Toilet Paper, on va encore travailler ensemble cette année. Et ce sont des gens qui te payent bien si tu travailles avec eux, donc sauf Toilet Paper. Mais ça me donne la chance de pouvoir remettre tout cet argent dans la fondation. J'ai l'impression que travailler avec Toilet Paper a été un point de bascule parce que j'ai vu ces photos partout. Vraiment, je ne pense pas que c'était un point de bascule. On me l'a présenté via Damiani, on s'est apprécié, j'aime ce qu'il fait et on a commencé à travailler ensemble. J'appelle pas ça un point de bascule. Tu as une obsession avec ça. C'est comme ça que s'appelle ton podcast? Bah oui, maintenant je vais le renommer du coup. Tu poses cette question à tous tes invités? À mes invités anglais, oui.
It's to my English invitees.
Qu'est-ce que les gens, Jacquemus et Gucci par exemple, recherchent quand ils te contactent? Je pense qu'ils veulent des photos Martin Parr et c'est ce qu'ils obtiennent à chaque fois. C'est la seule chose que je peux faire. Tu es très bon pour trouver des titres pour tes photos. Qu'est-ce qui fait un bon titre? Alors, ça doit être accrocheur et refléter l'esprit du projet. Ça doit être original. Et voilà, c'est tout, je pense. Comment tu recherches un nouveau titre? Alors, juste quelque chose qui a un lien avec le sujet. Notre nouveau livre de mode s'appelle Fashion Faux Pas, ce qui est plutôt drôle. Donc oui, juste une connexion au travail qui est présent dans l'ouvrage. Simple, donc. Quel a été ton accélérateur le plus cool? Sûrement le passage du noir et blanc à la couleur au milieu des années 80, parce que c'est à ce moment-là que j'ai été connu. Par exemple, en France, elles ont été montrées au Festival d'Arles par François Hébel lorsqu'il était directeur en 1986. Et cela a eu un gros effet profond. D'autres personnes ont pris l'exposition, les gens l'ont vu, les gens ont aimé. Alors oui, je pourrais dire que ça a été un point de bascule. Mais comment tu trouves ta voix? Je continue juste à travailler, les gens m'écrivent tout le temps, ils veulent que je fasse des projets, et j'ai aussi mes propres projets à moi. Ce que je veux dire, c'est quand tu regardes tes photos en noir et blanc, elles sont très différentes de celles en couleur. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Alors rien n'avait changé pour moi, je suis passé de l'envie d'enregistrer cette ville dans laquelle je vivais à faire Last Resort. La plupart des photographes disent qu'ils voient une continuation assez naturelle entre le noir et blanc et la couleur. Je suis désolé que toi, non, mais ça me semblait être la prochaine étape logique à l'époque. Qu'est-ce que tu penses de la citation de Picasso, « Un bon artiste copie, un grand artiste vole » ? Oui, c'est très très drôle. Bien sûr, Picasso est un grand artiste. Moi, je ne me considère pas comme étant un grand artiste. Je suis juste photographe et je continue à travailler. Je ne suis pas aussi réfléchi que ce que tu essayes d'impliquer. Je passe simplement au projet suivant. Mais tu es exposé dans des institutions artistiques? Oui, j'ai été exposé dans plein d'endroits, le MoMA, le Tate, donc oui, dans un sens, je suis artiste. Mais quand les gens me demandent ce que je fais, je dis toujours photographe, je ne dirai jamais que je suis artiste, quand bien même c'est ce qui est écrit sur mon compte Instagram, ce que je tolère. Tu dis oui à beaucoup de projets, n'est-ce pas? Pas du tout, non, je n'aurai pas le temps. Les gens veulent que je fasse des conférences, des ateliers. Je suis plus intéressé par les projets où l'on veut que je prenne des photos et où on me paye pour le faire. Au moins, on a de nouvelles photos, ce qui est toujours très utile pour nos archives. Alors oui, je ne dis pas oui à beaucoup de choses, ce serait physiquement impossible. Quel genre de projet photographique tu refuses? Alors en général, j'accepte la plupart des projets photos. Ça dépend de qui c'est et s'ils payent. On n'a rien sans rien, bien sûr. Iconique. Comment obtenir une photo iconique? Alors c'est très difficile à réaliser, je ne peux pas te dire comment faire parce que si je le savais, je ne ferais que prendre des photos iconiques bien sûr, mais si j'arrive à en prendre 8 par an, c'est que je m'en sors bien. La grande majorité ne sont pas bien. C'est vrai, seulement 8 par an? Oui, tout le reste, alors... C'est pas de la merde, certaines ont une valeur documentaire, elles vont donc aux archives de Magnum. Je viens de revenir d'Islande par exemple, et si j'arrive à tirer 2 ou 3 photos de ce voyage, j'en serai très content. Alors je n'ai pas encore fait la sélection, parce que je choisis avec les impressions, 20 sur 30 qu'on fait venir du labo. Je les étale toutes sur la table, et c'est là que je choisis celles qui iront sur le site de Magnum. C'est seulement là que je peux déceler si une photo a le potentiel pour être iconique. Pourquoi est-ce si important de créer des archives aussi grandes? Alors tout d'abord, c'est très logique parce que je prends beaucoup de photos. Deuxièmement, ces photos peuvent faire l'objet d'une licence et j'utilise le site de Magnum non seulement pour obtenir une licence, ce qu'ils font bien sûr en mon nom, mais aussi pour avoir les photos sur le site. Ainsi, lorsque je prépare une exposition ou un livre, je peux les consulter, les éditer et créer des projets. Il y a 20 personnes qui travaillent ici. Qu'est-ce qu'elles font ? Alors oui, 12 personnes, 3 font partie de l'entreprise en tant que business, comme Charlotte qui vient de passer, et le reste travaille pour la fondation. Il y a différents rôles, par exemple John s'occupe des abonnements, Nathan des réseaux sociaux. Quel est ton héritage ? Mes archives, j'imagine ? Que veux-tu que les gens retiennent de toi ? Alors, je n'ai pas pensé à ça vraiment, juste que je suis photographe et que j'ai des grandes archives, c'est tout ce qui me rend heureux. De quoi es-tu le plus fier ? Continuer à avancer, essentiellement. Comment tu mesures le succès ? Alors, on peut mesurer le succès par le nombre de followers qu'on peut avoir sur Instagram, le nombre de livres qu'on vend, des choses comme ça, mais je n'y pense pas trop, non. Est-ce que tu penses être un photographe à succès ? J'imagine que oui, je suis très chanceux en tout cas. D'où te vient ta motivation ? Alors, j'ai juste un enthousiasme naturel pour la photographie et voir le monde qui est en face de moi et essayer de transmettre ça en photo d'une manière qui a du sens. Est-ce que tu peux me donner une leçon de propagande ? J'ai entendu dans une interview précédente, tu disais que la photographie, c'est de la propagande, et je pense que c'est très bon pour propagander. Alors, pas vraiment, parce que la plupart des photos qu'on voit aspirent à la perfection. Les photos de magazines de voyage, les photos de mode, tout est beau. Mon travail est de montrer la réalité telle qu'elle est, c'est ce que je vois. Et quelque part, mes photos sont anti-propagande parce qu'elles sont vraies. Quand tu prends des photos de tes compatriotes, est-ce que tu trouves ça beau ou bien c'est une description du mauvais goût ? Est-ce que c'est pour se moquer ? Non, c'est juste pour me rappeler de ce que j'ai en face de moi, mais je ne pars pas avec l'idée de me moquer des gens. Je veux juste montrer les choses telles qu'elles sont. Et bien sûr, quelques personnes reconnaissent ce point de vue et c'est ce qui les intéresse dans mon travail. Donc ton esthétique, c'est de trouver de la beauté dans le mauvais goût. Oui, les stations balnéaires au Royaume-Uni sont très clinquantes, colorées et peuvent parfois être déprimantes. La plus grande station balnéaire au Royaume-Uni, c'est Blackpool, et c'est aussi la ville la plus défavorisée du pays. C'est donc ironique, la ville est censée être grande, belle, colorée et attractive, et pourtant elle est très délabrée dès qu'on s'éloigne de la plage et de la promenade.
Marketing.
Alors oui, quand je fais un livre, l'éditeur va généralement faire un peu de publicité. Donc j'ai toute une série d'interviews là pour ces deux nouveaux livres qui vont bientôt sortir. Le livre sur la mode et le livre sur Louis Vuitton, que je viens de finir. Et puis je vais faire une conférence sur mon travail avec le monde de la mode. J'ai l'impression que tu passes 50% de ton temps à faire du marketing. Alors j'ai beaucoup d'interviews parce que j'ai deux bouquins qui sortent et qui disposent tous deux de services de relations publiques très efficaces. Donc oui, je serai à Paris le 21 mars. Venez à l'ouverture à la galerie Clémentine de la Ferronnière.
Fantastique.
Super, je viendrai. Choc, est-ce qu'on a besoin de choquer pour exister ? Pas vraiment, non. Je ne cherche pas à choquer les gens. C'est juste que certaines personnes peuvent trouver cela choquant lorsqu'elles regardent des choses comme les nouvelles photos de Brighton avec tous les déchets. Mais non, ce ne sont les gens de la classe moyenne qui ont été choqués. Les gens de Liverpool n'ont pas été choqués lorsqu'on leur a montré les photos parce qu'ils savaient à quoi ressemblait New Brighton. Mais il semble que dans ton travail, le choc a été un moyen d'émerger. Non, non, je pense que c'est faux. Je ne suis pas d'accord avec ça.
What do you see in the viewfinder?
Qu'est-ce que tu vois dans ton viseur? Ce qu'il y a en face de moi.
How do you compose?
Mais comment tu composes ta photo? Ça se fait naturellement, parfois il y a des choses au milieu, parfois on utilise beaucoup plus les bords, tout dépend de la situation, qu'elle soit chargée ou simple. Je recherche des schémas dans la société, dans les choses qui se trouvent devant moi, parce que ça veut généralement dire une bonne photo. Donc il n'y a pas de technique en fait, juste l'expérience. Quelle est ta routine? À quoi ressemblent tes journées? Alors, si je ne suis pas en déplacement pour un travail ou un autre, je suis souvent ici, même les week-ends. Et il se passe toujours quelque chose. Les gens m'interviewent. Tout à l'heure, on a 9 personnes qui viennent visiter la fondation. Il y a toujours quelque chose à faire.
Ok.
Quels sont les 3 photographes les plus importants pour toi? Alors, je suppose Tony Jones, Gary Winogrand et peut-être Walker Evans, des classiques. Tony Jones a eu une grande influence sur moi. Il a réalisé des œuvres magnifiques à la fin des années 60. Alors oui, je le choisirai lui ainsi que Winogrand que j'ai toujours aimé.
Fantastique.
Alors, une dernière question. Qui voudrais-tu écouter dans ce podcast? Quoi, de la musique? Musique, ou un photographe, ou quelqu'un dans l'industrie créative? Alors, je n'y ai pas vraiment pensé. Tu veux que je dise quelqu'un? Oui, quelqu'un que tu aimerais écouter. Peut-être Thomas Struth. Je ne l'ai jamais entendu parler. Ce serait intéressant de savoir ce qu'il a à dire. Je ne l'ai jamais rencontré. Fantastique. Merci beaucoup, Martin. Merci à toi. C'était agréablement court. Oui, oui, c'est ce que tu voulais, non? Oui, oui, très bien. Mais comment tu arrives à tenir 2 heures?
Je m'appelle Adrien Garcia et vous venez d'écouter The Bold Way. The Bold Way, c'est aussi une newsletter dans laquelle je vous partage un email par semaine rempli de contenu exclusif, d'idées innovantes et de ressources précieuses pour vous aider à surmonter vos défis et tracer votre propre chemin. Inscrivez-vous dans les notes de cet épisode ou sur theboldway.fr. Last but not least, la meilleure manière de m'aider est de partager ce podcast autour de vous. Si cet épisode vous a aidé ou touché, partagez-le à vos proches et à vos amis. Merci pour votre confiance et à bientôt pour un nouvel épisode.